Merci Laetitia Gaillet.
De
Allez,
rien.
Fonçons vers le destin du LOL.
Ouais.
heures dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, je viens de faire le bilan de cette rentrée, on a un point faible.
Ah oui, bah c'est Clara le point faible.
C'est sans doute pour ça que vous m'avez demandé de remplacer Alex aujourd'hui.
Ah bah donc c'est Alex le point faible alors.
Non mais écoutez, suivez mon raisonnement.
Ouais, ouais, ouais.
Sur l'islamo-gauchisme, là, on est au top.
Ah bah oui, hein. Ça c'est bon, c'est un acquis. Voilà. Hein.
On va parler pour vous. Hein.
Alors sur le terrorisme environnemental, la dictature végétarienne, on se pose là.
Oui, non mais oui, ça c'est pas moi non plus parce que j'ai toujours un saucisson dans mon sac.
On serait aussi intersectionnel, hein, faut pas l'oublier, Charlie.
Et bien pensant.
Et bien pensant, oui.
Mais qu'est-ce que je fais dans cette équipe?
Bah attends, tu fréquentes l'élite du wokisme, c'est pas donné à tout le monde, là.
Ah, super, je suis comblée.
Voilà. Et malgré toutes ces qualités, il nous manque un truc essentiel.
Ah bon, bah c'est quoi alors? C'est moi, je fais le max, pourtant. Hein.
Bah non, mais on n'est pas encore indigéniste.
Ah, ça manquait, ça. Tiens,
ah merde,
ça manquait.
Mais j'avais jamais réalisé ça, dis donc. On s'est encore jamais fait traiter d'indigéniste, voilà.
Et encore, moi, je suis communautariste.
Oui.
Parce que je viens d'une monarchie. Moi, je suis totalement en retrait de la République.
Mais alors, attends, mais comment on fait alors?
On va prendre un cours d'indigénisme.
Ouais, non, mais vous voulez pas prendre des cours d'anglais ou de baroussol
plutôt? Non, c'est pourquoi aujourd'hui, on va inviter Rocaille. Il y a Diallo.
Ah voilà. Oui, bah bonne idée, oui, c'est la meilleure. Il y a le mot indigéniste dans 98% des messages qu'elle reçoit sur Twitter. Donc,
en plus, elle est afro-féministe, autant dire féminazi-racialiste.
Ah, c'est génial, génial, génial.
Donc on va lui poser plein de questions puis prendre des notes.
Voilà, non, mais vous êtes en train de me faire marcher là, c'est... en fait c'est un sketch.
Mais Clara, un petit peu d'ambition là, on coche quasiment toutes les cases de clichés gauchistes primaires, il nous en manque une.
Ouais, donc, voilà. Oui, c'est vrai, je me disais bien qu'il vous manquait une case.
Non, Clara, on fait une émission d'humour.
Oui.
L'humour c'est basé sur les clichés, ok?
Oui.
Et donc pour s'emparer des clichés, il faut les entretenir.
Ah d'accord.
Bah, oui.
On va pas laisser les vieux blanc hétéro cisgenre avoir le monopole des clichés sur nous.
Ben non, oui, c'est vrai, ce serait bête. Hein. Ouais. Et notre invitée dans tout ça?
Elle propose un documentaire sur le cliché de la Parisienne.
Mais c'est moi ça, le cliché de la Parisienne. En plus, je suis éditrice, bien sapée, jolie. Enfin, il n'y a pas plus cliché parisien.
Voilà, bah, t'as tout pigé. Voilà,
c'est un bon début, Clara. Là. Mmh. Et puis dans moins d'une heure, tu seras parisienne indigéniste.
Oh, alors, chic, chic, chic. Oh là là.
France Inter et bienvenue dans cette réunion mixte dont voici la devise d'actualité du jour. On a tous quelque chose en nous d'un contrôleur fiscal de Bercy. Voici le sommaire. La guerre culturelle bat son plein aux États-Unis au point que l'école est devenue un terrain d'affrontement. La guerre culturelle oppose deux pôles idéologiques, les conservateurs contre les progressistes, une dualité que certains ont déjà importée en France et on les connaît ceux-là.
Pour la 5e République, on va s'occuper que de François Mitterrand, d'accord ? Le reste, c'est de la merde. Donc, tonton !
Et voilà. Nous allons ensuite revenir sur un sujet dont nous avons déjà parlé dans l'émission, mais étonnamment, nous ne l'avions pas approfondi. C'est étonnant, c'est pas notre genre. Le cinéma occidental a enfin un héros asiatique, un personnage Marvel dans Shang-Chi, premier au box-office, alors qu'en France, quand même, des gens ont beaucoup travaillé pour la visibilité des Asiatiques. Enfin...
Moi, j'ai pas dormi pendant 2 ans. Je suis devenu spécialiste des marchés asiatiques. Il y avait que moi de réveiller à l'ouverture de la bourse de Hong Kong.
Ben voilà. Et si vous avez une dissertation à rendre, sachez qu'il existe une alternative au fameux « Mon chien a mangé ma copie ». C'est de faire rédiger votre dissertation par un jeune diplômé au Kenya. C'est de la sous-traitance en quelques clics. Les Kenyans sont donc les ouvriers d'usines à dissertation.
C'est qui le con qui a écrit ça? William Shakespeare. Hein?
Et à mes côtés aujourd'hui, mesdames et messieurs, attention, c'est Clara Dupont-Mono.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Et avec nous à 17h20, celui qui nourrit une passion folle pour la Parisienne, mais aussi la Lilloise, la Dijonnaise, la Limoise, la Limoujaude, la Bellifrienne.
Oui, oui, on n'a pas fait l'émission, Clara, merci. Alors...
C'est André Manoukian.
Ah, c'est lui.
Bonjour, bah oui.
Bonjour,
André,
les amis.
Quelle chronique avez-vous préparée, si vous en avez préparé une, bien sûr.
Écoutez, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour deux chanteuses formidables et mon cœur n'a pas su choisir. Donc, je vais vous faire un duo de chanteuses. La première s'appelle Célia Kameni et la deuxième, Imani.
À 17h30, comme la Parisienne, il est grand et mince, comme la Parisienne, il est snob et sûr de lui, comme la Parisienne, il est vintage, puisqu'il porte le même pull depuis 2004. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Clara, ça fait plaisir, j'aime bien ces présentations. Mon sujet du jour, figurez-vous que j'étais à l'inauguration d'une œuvre d'art, et alors c'était pas à l'Arc de Triomphe, mais au monument, en hommage à...
Johnny.
Le monument à Johnny, comme on dit.
À 17h40, celle qui, à défaut d'être parisienne, a le cerveau picard, mais non, pas la région, les surgelés, puisqu'elle est délicieusement enivrée. Constance, de quoi allez-vous nous parler? Bonjour. Et moi, je vais relever le niveau en mettant les points sur les CCDIs.
Oh, c'est bon.
Bonne idée. Et voici celle qui va ambiancer l'actualité. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes...
Rokhaya Diallo.
France Inter. Charline Van Necker. Clara Dupont-Mono.
Par Jupiter.
Bienvenue Rokhaya Diallo.
Merci beaucoup, merci pour cet accueil.
Alors, je vous présente pour ceux qui vous ne connaîtraient pas. Vous êtes militante féministe et antiraciste. Vous débattez sur de nombreux plateaux de télévision. Vous êtes aussi éditorialiste au Washington Post. Et vous avez écrit une dizaine d'ouvrages, réalisé plusieurs documentaires. Et le dernier en date sera diffusé prochainement. Ce sera le 11 octobre à 22h50. Ce sera sur France 3 Paris, Île-de-France. Car votre documentaire s'intitule « La Parisienne démystifiée ». Le monde entier est persuadé que la Parisienne, c'est encore Inès de la Fressange, dites-vous, alors que Paris est l'une des villes les plus multiculturelles au monde. Alors, Rokhaya Diallo, pourquoi le stéréotype de la Parisienne est encore si ancré aujourd'hui ?
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a un endroit en France qui est extrêmement connu et qui a une renommée internationale, c'est Paris. Et c'est vrai que la femme française est souvent réduite à la Parisienne. Et ce qu'on met derrière la Parisienne, ce sont toutes les images, en fait, qui sont le support de marques commerciales qui vendent, en fait, leurs produits. Et à travers ce produit, la femme raffinée, qui sert beaucoup, en fait, pour les cosmétiques. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a un vrai décalage, en fait, entre cette image de la Parisienne et ce que sont les Parisiennes. Donc, Inès de la Fressange est une Parisienne, mais c'est une Parisienne parmi d'autres. Et ce que j'avais envie de raconter dans ce documentaire, c'est justement ces autres Parisiennes qu'on ne voit pas et qu'on n'associe pas à la ville lumière. Et je suis l'une d'elles, je suis née à Paris, j'y ai grandi, et j'ai grandi dans une ville qui ne me représentait pas comme étant l'une de ses habitantes légitimes. Et c'est à la rencontre de ces femmes que j'ai voulu aller dans ce film pour montrer cette pluralité qui caractérise en réalité la ville.
Vous êtes allée rencontrer notamment Alice Coffin, qui est militante et élue à Paris. Aussi, par exemple, Elisa Rojas, que nous avions reçue ici, qui est avocate et qui est, on dit, personne à mobilité réduite, dit-on.
Oui, qui est militante effectivement pour les droits de personnes en situation de handicap, ouais, tout à fait.
Voilà.
Gaëlle Prudencio. Qui est géniale,
voilà, qui est créatrice de contenu, qui a créé sa marque pour les grandes tailles, qui est une femme pleine de ressources.
Voilà. Et donc, pourquoi c'est un enjeu de combattre cette représentation stéréotypée de la Parisienne? Parce qu'on se doute bien que, la Parisienne, c'est un peu un mythe. Et pourquoi c'est important de combattre cette représentation-là?
En fait, c'est une autre manière de parler de la France à travers la Parisienne. On parle aussi de ce que la France ne montre pas d'elle-même à l'extérieur de ses frontières. Et c'est aussi une manière de donner une voix à des femmes qui finalement sont très très peu visibles. J'ai interviewé mon amie Grace Lee, avec laquelle j'ai créé un podcast qui s'appelle Kif Taras, parce que c'est une femme qui est d'origine sino-cambodgienne, qui a grandi aussi dans une France qui ne la représentait pas. Et donc, elle montre aussi comment, à force d'avoir des images qui représentent un certain type de beauté, on intériorise le fait que nos traits ne sont pas considérés comme étant beaux. Et donc elle dit comment elle s'est battue en fait avec le visage qu'elle voyait dans le miroir et l'idée qu'elle pouvait être une femme belle physiquement. Et ça, c'est, je trouve que c'est intéressant parce que ça se joue aussi dans la transmission qu'on peut avoir des enfants. Et c'est pas tant un combat que l'idée d'additionner. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de combattre la représentation du Paris d'Édith Piaf et d'Inès de la Fressange, mais d'ajouter à cette représentation d'autres possibilités. Et donc, c'est enrichir finalement le récit national.
Vous parliez de reflets dans le miroir et dans votre documentaire, il est dit que la Parisienne est un fantasme d'homme. Et je me demandais, mais aussi un peu de femme, parce qu'il y en a beaucoup des femmes qui veulent, vous voyez, qui veulent être la Parisienne. Du coup, c'est aussi un fantasme de femme.
Disons que c'est un fantasme qui a été conçu dans un désir et dans une appréhension masculine, mais qui a été intériorisé par plein de femmes. Et c'est souvent ça, en fait, ce qui se passe dans les canons de beauté, dans le sexisme, c'est que, en fait, comme on vit dans un environnement qui nous dit que pour être acceptable, pour être désirable, pour être belle, il faut répondre à tel ou tel type de critères, on les intériorise et finalement, on les réinterprète. Alors, plus ou moins, parfois, on le fait avec un petit peu de distance, avec un peu d'ironie, mais parfois, on est convaincu qu'il faut qu'on corresponde à ces critères-là pour être acceptable. Et souvent, le baromètre, en fait, de notre valeur, c'est quand même le regard masculin. Et je pense que c'est assez difficile de se départir de ce regard-là et de s'affirmer en dépit, en fait, des canons dominants.
Mais dans les années 80, quand Jean-Paul Goude y prend Grace Jones quand même, et tout d'un coup, on découvre, elle est à la fois parisienne, elle est évidemment super belle, et du coup, ça marche. Vous allez me dire, c'est une seule parmi, c'est ça, c'est pas assez.
Bah, disons que c'est une femme avec un physique absolument sculptural. C'est-à-dire que Grace Jones était non seulement vraiment la femme noire, mais vraiment la femme noire avec un physique extrêmement voilà, musclé, sculptural, une très grande femme. Parfois, moi je sais que, enfin, avec les années, j'ai quand même pris une distance critique par rapport à certaines représentations où elle était un petit peu animalisée. Et c'est vrai que pour des femmes qui pouvaient... Moi je me souviens d'une représentation où elle était dans une cage et il y avait un petit écriteau qui disait « Don't feed the animal », ne nourrissez pas l'animal. Ouais. Et ça, en fait, si on le revoyait aujourd'hui, je pense qu'on le trouverait, on trouverait ça beaucoup
mais
moins
si on peut plus rien
alors. Voilà, pour
si on peut plus rien, vraiment.
Bon, voilà,
on va partir sur Robin,
ça va, si on peut plus mettre les gens dans des cages.
Mais après, elle
n'aurait pas une exposition universelle à Bruxelles. On n'aurait rien fait.
Mais en même temps, c'est vrai que Grace Jones a joué un rôle, mais c'est toujours la seule femme. Voilà, on peut en citer une, on peut pas en citer 10. À partir du moment où on peut les citer, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses.
Bon, il y a Josephine Baker aussi.
Mais oui, bien sûr.
On en parle dans le documentaire.
On en parle justement comme une des premières représentations de la Parisienne qui n'était pas une femme blanche. Alors c'est toujours très ambigu. Josephine Baker, c'est à la fois cette femme qui se jouait des clichés, mais qui les incarnait aussi. C'est une femme américaine qui a joué dans ce qu'on appelait la Revue Nègre, qui s'inspirait en fait un petit peu de ce qu'on imaginait sur l'Afrique. Donc elle n'a jamais mis un pied en Afrique, mais en même temps elle a joué avec ces représentations-là. Donc ça reste... moi je sais qu'à titre personnel, je ne m'identifiais pas à une femme qui dansait nue avec une ceinture de banane. Donc c'est compliqué parce que à la fois...
Alors qu'elle a été résistante. Et
par
là,
la suite.
Là, vous pouvez vous
s'identifier. C'est-à-dire que cette partie-là de sa vie me parle évidemment davantage. Le fait qu'elle soit la seule femme à avoir pris la parole lors de la marche sur Washington aux côtés de Martin Luther King, qu'on lui ait demandé, ça on le sait pas, mais Coretta King, la femme de Martin Luther King, lui a demandé de prendre la relève de son époux. Elle a réfléchi et finalement elle a choisi sa famille. Donc,
et voilà. Et entre ici, Joséphine. Donc, à bientôt. Pour l'instant, c'est Rokhaya Diallo qui est avec nous dans Par Jupiter sur France Inter. Et donc, la Parisienne démystifiée, c'est à voir le 11 octobre sur France 3 Île-de-France. Vous pouvez le rattraper, bien sûr, après en VOD. Puis on va parler plein d'autres choses avec Rokhaya.
Allez, on se fait The Cure, par exemple, Close to Me. Ça vous dirait ? Mais pas le choix, de façon. Ouais. Hop, on a mis le disque, c'est trop tard. Oh,
Ouais, on s'ambiance tranquillement sur France Inter, bien sûr, avec le choix musical de Djoubaka. Et notre invité, c'est Rokhaya Diallo. Aujourd'hui, Clara Dupont-Mono m'accompagne, ainsi que...
Les non-parisiens Constance, André Manoukian et le très parisien chic Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai, on oublie de le dire souvent.
C'est vrai, de Chenauve, bien sûr, le parisien de Chenauve, c'est bien connu.
Bien sûr,
près de
et
Dijon.
De Vesoul après, voilà, tout ce qui est Paris, quoi, en fait, la banlieue.
J'ai entendu aussi, chez nos policiers, nos gendarmes, que pour beaucoup de choses, bien souvent, il manquait de bras. C'est pourquoi une réserve opérationnelle de la police sera créée.
Le journal de presque 17h17.
Nous auditionnons ce matin Monsieur Benalla.
Bonjour Monsieur le Président.
Oui, dans ce journal, on parlera de Campanellis.
Ah bon ? On parlera d'un fromage frais ?
Jean-Christophe Campanellis, l'ancien premier secrétaire du PS, Guillaume.
Je connais pas.
Ok, bon, non, on parlera aussi de Briouat.
D'accord, un bleu de brebis, donc c'est vraiment spécial
non,
fromage.
Non, Briouat du Rassemblement National.
Ah d'accord, parce que voilà. Je connais pas non plus.
Et enfin, là vous savez, on parlera de Blanquer.
Ah là, d'accord, on parlera de chèvre plutôt alors.
Non, arrêtez avec le fromage.
Non, là je parlais plutôt de l'animal.
Ah oui, là je vois.
J'avais payé le gars aussi comme animal. Bon, allez, on commence par la politique.
Oui, le maire PCF de Grigny dans l'Essonne a été élu meilleur maire du monde par la City Myers Foundation.
Ouais, ça c'est incroyable.
Hein. Ah, c'est on peut fou, le dire, c'est incroyable. Un Français qui remporte cette distinction, c'est dingue.
Non, c'est incroyable qu'il y a encore un maire communiste en France. C'est ça, moi je m'y attendais pas du tout. C'est fou ça.
Politique toujours, Marine Le Pen était l'invitée d'Europe 1 ce matin.
Oui, elle a dû répondre aux questions rudes hein, de Sonia Mabrouk, comme pourquoi vous êtes la seule qui peut sauver la France.
Oui, ou encore ça va vous ? Il fait pas un peu chaud en ce moment pour un mois de septembre.
Un entretien vérité du journalisme total.
Effectivement, c'était très fort. Steve Briouat, oui, le vice-président du RN, va être jugé pour complicité de provocation publique à la discrimination.
Oh, c'est beau, on dirait que le code pénal a été inventé pile poil pour les délits de l'extrême droite. C'est
beau,
hein,
c'est beau comme du Michel Sardou.
Oh là,
c'est beau,
ça
c'est
me fou. Fout les poils. Politique encore.
Jean-Michel Blanquer est en train de battre un record de longévité au sein du ministère de l'Éducation.
Eh oui, bravo à lui, 25 ans, c'est vrai que ça fait très très long.
Ça fait pas 25 ans, Guillaume.
Ah non, parce que moi je parle en temps ressenti.
Ah bah non, ah bah en temps ressenti c'est 48 ans, je crois.
Excusez-moi.
Allez, on passe au sport.
Oui.
Lors de la réception des médaillés des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a déclaré à propos des JO de Tokyo, où les Français ont remporté beaucoup de médailles, ceci.
Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité.
Oh, bah on va te dire les choses en vérité, Manu. Alors, quand tu veux qu'on te dise, t'as quand même beaucoup de chances que Teddy Riner ne soit pas levé là, à ce moment-là pour te faire un gros hippon dans ta face juste après cette phrase.
Oui, et en médaille d'or de l'arrogance, Macron est toujours imbattable. Allez.
Technologie à présent.
Oui, Thomas Pesquet bat un autre record, le record européen de durée de sortie dans l'espace.
Oui, alors il a également battu un autre record, le record du monde de selfie dont on n'a absolument rien à foutre sur Instagram.
Bravo. Une page santé, alors qu'il était en pleine conférence de presse, le docteur japonais Yusuke Mon a subitement perdu la mémoire.
Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon une Agnès Buzyn. Ah bon, j'ai été ministre de la Santé ? Ah bon ? Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ?
Et puis une société américaine a levé 15 millions de dollars pour ressusciter le mammouth laineux grâce à des manipulations génétiques.
Si seulement une société française pouvait faire la même chose.
Tu voulais dire ressusciter le mammouth laineux ?
Non, ressusciter le PS. Jean-Christophe Cambadélis me manque.
Ça va pas bien. L'économie toujours, Monoprix a décidé de retirer de la vente un jus de fruits dont la bouteille était décorée de tags dont la mention avec la mention ACAB qui signifie All cops are bastards.
Ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment.
Vous
incroyable.
Trouvez?
Ah ben que des flics boivent autre chose que du Ricard, moi ça c'est fou. Je trouve ça incroyable. Comme quoi.
Le monde est plein de surprises.
Oh c'est fou.
17h27 sur France Inter en compagnie de Rokhaya Diallo. C'est toujours instructif de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que on adore importer ce qu'ils ont de pire ou de meilleur. Et en cette rentrée, les Américains constatent que la guerre culturelle est entrée à l'école. Donc on appelle guerre culturelle celle que se livrent les deux pôles idéologiques. En gros, on résume conservateur contre progressif, progressiste. Hein, c'est pas des verres de lunettes. Le port du masque, donc c'est le port du masque ou non en classe, c'est étudier l'histoire du racisme à l'école ou pas, et puis à la récré, c'est donuts au chocolat ou donuts chocolatines. Et la guerre culturelle étant déjà déclarée en France, on souhaite bonne chance à tous les enseignants.
Ceux qui sont... Pourquoi tu lèves la main, j'ai rien dit encore. Ceux qui sont pour la peine de mort, levez la main. Pour. Maintenant, qui est contre la peine de mort ? Et toi, tu lèves pas la main ?
Non.
T'es pour ou t'es contre ?
Ça dépend. Des fois, il y en a qui tuent les enfants.
Ben oui, mais enfin, t'es pour ou t'es contre?
Je suis contre. Mais ça dépend, des fois je suis pas pour.
C'est Coluche dans Le Maître d'école, le film de Claude Berry. Rokhaya Diallo, vous êtes chercheuse en résidence à l'université de Georgetown aux États-Unis. Donc on a bien compris que vous étiez partie vous radicaliser dans l'un des deux pôles, n'est-ce pas?
Pour revenir, vous radicaliser en retour.
Voilà, c'est ça. Sur le plan de la guerre idéologique qu'on voit aux États-Unis et dont on sent quand même qu'elle s'est installée un peu en France aussi, vous trouvez que la France prend véritablement le chemin des États-Unis ou pas?
Je pense qu'elle aspire les appréhensions américaines sans que les choses ne se déroulent de la même manière en France. En réalité, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler l'équivalent de ce débat-là en France. C'est un peu ce qu'on a entendu dire sur l'islamo-gauchisme qui se serait infiltré dans les universités. Quand on regarde le nombre de postes qui ont été ouverts en maître et maîtresse de conférence en 2020 en France, il y en a aucun qui a été ouvert sur les questions raciales et aucun sur le genre, sauf un en études britanniques avec une dominante genre. Donc en réalité, on est bien dans le fantasme en France, alors qu'aux États-Unis, effectivement, il y a des études minoritaires depuis les années 70. Alors elles n'ont clairement pas pris le pouvoir, mais on sent qu'aujourd'hui, avec la présence de Donald Trump sur un mandat de 4 ans, il y a vraiment un refus, en fait, pour certaines personnes que les cours d'histoire appréhendent l'histoire des États-Unis avec ces questions, cette dimension notamment des questions raciales, ou avec toutes les questions de droits des minorités sexuelles ou des minorités de genre comme les personnes transgenres, et le fait de leur aménager la possibilité de d'user des lieux communs en toute sérénité. Mmh. Et je dirais pas que les choses s'importe en France, mais je trouve qu'on importe les outils de la droite républicaine en France pour essayer de faire taire les personnes qui essayent justement de soulever des questions qui, pour moi, sont des questions importantes. Et je trouve que ces questions-là sont très très peu étudiées en France. D'ailleurs, c'est pas pour rien que cette université américaine est dans des universités américaines ou allemandes, enfin pas seulement. Mm-hmm. Je veux dire, la semaine dernière, je suis dans une université en Bavière, que on arrive à évoquer ces questions, alors qu'en France, on est quand même dans ce fantasme d'un universalisme qui n'aurait pas permis à toutes ces questions, enfin qui n'aurait pas autorisé le racisme à s'exprimer à très haut niveau. Je pense que c'est vraiment du fantasme.
Mmh. Et mais les recherches que vous faites à l'université de Georgetown et le poste que vous avez là-bas, vous ne pourriez pas l'avoir en France aujourd'hui ?
Déjà, en France, on n'est pas tellement ouvert à la société civile dans les universités. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas universitaire de formation. Mmh. J'ai fait des études de droit, des études en production audiovisuelle aussi. Et en fait, ce dont a tenu compte le centre Gender Plus Justice Initiative à Georgetown, c'est vraiment de toute la connaissance que j'avais accumulée par mon travail, à la fois de journaliste et puis aussi dans mes engagements. Et voilà, on peut voir que par exemple, Alama Bankou, qui est un auteur que vous avez, enfin, qui a été reçu plusieurs fois sur France Inter, est enseignant à UCLA, il est professeur de littérature, mais du fait de parce qu'il est écrivain, je pense que Clara Dupont-Moneau pourrait être maîtresse de conférence en French Studies aux États-Unis. En France, c'est plus difficile de reconnaître le savoir qu'on a accumulé en dehors de l'académie.
C'est impossible.
Voilà. C'est très compliqué. C'est très très compliqué.
C'est la compétence contre le CV.
Voilà, c'est ça.
Si on résume, hein, parce qu'on a bien résumé nous. Ah, on ramasse, je dirais.
Très bien résumé.
Mais en fait, aux États-Unis, on serait tous profs de fac là, les gars, non? Hein, on serait tous à l'université.
On va pas s'emballer, hein.
Le rêve américain a ses limites.
Mais je pense qu'on pourrait. Je pense que en fait, le travail de Guillaume Meurice pourrait être étudié en fait comme étant un reflet de la vie politique française. Je pense que
ça arrive. C'est déjà arrivé à l'Assemblée.
C'est vrai. Mais ça peut complètement être dans un cursus en fait de profs qui travaillent sur la France.
Mon Dieu, mais vous imaginez que j'ai assisté à des cours. Tout de suite.
Mais on va tous
je donne des idées.
Mais ça va pas quoi.
On va faire quoi?
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Voilà, comme ça je l'ai fait une fois.
Je ne peux pas vous laisser dire ça.
Oh, ça fait du bien.
Voilà, c'est une découverte.
André Manoukian, qu'est-ce que vous avez choisi comme musique aujourd'hui?
Oh là là. Vous savez, Charline, mon cœur est grand comme le hall de Grand Central Station à Chicago, à l'heure de pointe. Donc aujourd'hui, c'est pas une, mais deux chanteuses que je voudrais chroniquer. Deux formidables voix mezzo, c'est-à-dire grave pour Guillaume Meurice.
Oui.
Hein, voix mezzo,
oui.
Voix grave.
Tout à fait.
Je pense que mon amour pour ce type de voix vient sans doute de ce moment heureux où, dans le ventre de ma mère, j'entendais sa voix filtrée par le liquide amniotique. Et du coup, la voix de ma mère sonnait comme celle de Rita Hayworth. Quelle déception plus tard, quand elle me hurlait dans les suraigus que j'allais mourir de froid à marcher pieds nus en sortant de la douche. Alors, dès que j'ai entendu ma première chanteuse mezzo, mais vous imaginez l'effet. Les chanteuses qui chantent grave me font chavirer. A contrario, les chanteurs qui chantent aigus faisaient chavirer les belles aristos de la Renaissance. Et au XXe siècle, les Beatles faisaient chavirer les filles de Liverpool, comme Balavoine et Goldman faisaient chavirer les filles de Saint-Julien, Molin, Molette, que je salue au passage. Les castrats sortaient de leur corps d'homme des voix de femmes surpuissantes et le résultat était surnaturel. On appelait ça la voix des anges. Et tout ça, c'était à cause de Saint-Paul qui disait que les femmes ne se taisent dans les églises. Quel con ce Saint-Paul parfois. Pardon.
Pour le cancel, Saint-Paul.
Alors, à l'inverse, quand une chanteuse porte sa voix, la puissance des graves, et là, on goûte cette même sensation de surnaturel. Ce qui fera dire à Joséphin Péladan, critique d'art et occultiste français, né à Lyon en 1858, que la beauté est androgyne. Enlevez les chapeaux ridicules du pharaon Ramsès et de son épouse Néfertari, c'est les mêmes. Ils se ressemblent étrangement. La beauté, c'est du masculin dans du féminin et du féminin dans du masculin. Aujourd'hui, je vous présente deux divinités. Elles ne sont pas égyptiennes. L'une s'appelle Célia Kameni, elle est née à Lyon. L'autre s'appelle Imani, elle est née à Martigues. Oui, nous avons de la chance en France d'avoir ces deux voix incroyables, portées par deux femmes admirables, dont l'art vocal confine aux frontières du surnaturel. Commençons avec Célia Kameni qui nous offre une version de Goldfinger, la chanson de James Bond qui était interprétée autrefois par Shirley Bassey sous la houlette du talentueux pianiste Alfio Origlio. Oh. Célia Kameni, non mais sans blague, c'est
vous
pas possible.
Vous l'écrivez ça quand vous écrivez
Il y a des droits, ça sème sur le
Mais c'est incroyable, elle est au sommet de son art, elle est toute jeune, elle est déjà dans la cour d'Ella, de Sarah, de Billy, d'Amy. Même puissance émotionnelle, même capacité à nous prendre au début d'une phrase et à nous briser le cœur quand elle se termine. Sa plainte, en plus, elle est jamais dans le pathos ni le surjeu. Elle nous donne envie de nous faire larguer sur le champ parce qu'elle a cet art consommé de nous consoler en nous faisant vivre l'intense moment d'un chagrin d'amour. Imani, alors elle nous livre une formule magique. Sa voix descend encore plus bas que celle de Célia. Et l'idée de génie, c'est qu'elle s'est entourée de l'instrument à cordes qui descend aussi dans la tessiture de la voix humaine et dont on dit qu'il s'en rapproche le plus, le violoncelle. C'est pas avec un violoncelle qu'elle fait son album, c'est avec 8 violoncelles. L'un tape sur sa caisse, l'autre gratte les cordes, l'autre slappe comme un bassiste, l'autre caresse et celui-là miaule. Vous avez entendu comme il miaule là, le violoncelle? C'est un vrai bestiaire sur lequel, à travers 12 reprises de Stevie Wonder à Cat Stevens en passant par Nina Simone, elle règne comme une sainte patronne, comme la sainte patronne des femmes qui ont tout le pouvoir du monde dans leur seule corde vocale. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away.
go. If you go away.
Voilà, alors Imani, la voix sublime, elle joue dans tous les festivals, on peut la retrouver dans toute la France. Et Celia Camini, elle, elle est à retrouver dans l'album Secret Place d'Alfio Origlio. Et ils seront en concert le 8 octobre au Sunset à Paris. Si vous êtes parisien, vous avez de la chance. Et puis allez un peu dans les clubs de jazz, bordel, ça ferait du bien.
Merci André Manoukian, magnifique choix, ça nous a enjaillé. Rokaya Diallo est en notre compagnie. Tiens, vous êtes aussi ce qu'on appelle polémiste. Donc en fait, mais c'est un métier ça, vous êtes payé pour foutre le bâton sur les plateaux de télé, c'est quoi?
C'est marqué quoi?
Si j'étais payé à chaque polémique, je pense que je me garderais de très loin.
T'en payes pas tellement. Ouais, bon.
Non, elle se provoque malgré moi.
Elle se provoque malgré moi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque intervention cristallise des réactions, mais non, je suis pas polémiste professionnelle.
D'accord. Ça m'offre une transition. Guillaume Meurice qui adore ça aussi. Lui, il est payé pour.
Alors aujourd'hui, je vais essayer d'apaiser les choses. Je vais parler d'art. Hein. Ah, on va aussi parler de Johnny, parce que pendant qu'on emballe l'Arc de Triomphe, ce qui fait hurler les réacs, hein, comme s'ils apprenaient que le prénom de Bonaparte, c'était Youssef. Pendant ce temps-là, donc, on inaugurait ce matin.
Ça s'appelait Youssef,
paraît-il. On va pas lancer une autre polémique sur les polémiques, Dédé.
Vous avez dit, j'ai entendu dire qu'il avait envisagé de se convertir à l'islam.
Ah, je ferai une chronique là-dessus, spécialement là-dessus, parce que je sens qu'il y a un
quand il est allé en Égypte. Elle a raison.
Fertile.
Quand il est allé en Égypte.
Bah, vous voulez que j'abandonne Johnny?
Je fais Napoléon, c'est très bien.
Alors, Johnny, il y avait donc un monument à sa gloire qui était inauguré ce matin devant le ministère de l'économie. Voilà, on en a parlé. Hein, c'est un petit peu comme une statue d'Émile Louis devant la maison de la protection de l'enfance. Mais c'était très émouvant. Alors, j'y étais. Alors, le monument est composé d'un manche de guitare, vous voyez, comme ça, de 6 mètres, et surmonté d'une moto, ce qui lui donne un petit côté moche. Enfin, ou même un grand côté moche. Enfin, vous savez, l'art, c'est très, très subjectif. En tout cas, ils ont pris les deux éléments qui caractérisaient le plus Johnny. Je pense que voilà, pour Depardieu, ils auraient mis une bouteille de vin et son foie au-dessus. Voilà, pour Dédé, ils auraient mis un stérilet afghan. Voilà, avec un grand poil dans la main. Je vois là des choses comme ça. Pour Okaya, peut-être une sculpture de tweet de la fachosphère posée sur du somme d'Elisabeth Lévy. Vous voyez un petit peu le principe. Enfin, pour Johnny, donc on a donc guitare plus moto. Et ce matin, il y avait plein de fans, les fameux fans à Johnny, qui étaient absolument ravis de découvrir cette œuvre.
C'est une honte, c'est absolument honteux.
À ce point-là?
Ah oui, à ce point-là.
Pourquoi alors, dites-moi?
Bah, c'est une vraie douve, vous avez vu ce que c'est?
Bah oui,
alors. Un ange de guitare avec une oreille Davidson, c'est ça, c'était ça, Johnny Hallyday pour vous?
Ah bah, attendez, m'engueulez pas, c'est pas de ma faute.
C'est ni fait ni à faire, c'est absolument honteux.
Bon, ils étaient pas tous ravis, mais c'est vrai que c'était pas un reportage facile. Il y avait de la tension ce matin, voilà, autour de l'œuvre. Alors moi, je me dis toujours, tiens, qu'aurait fait Albert Londres à ma place? Voilà, ça devait être ça. Eh ben, il aurait continué à porter le micro dans la plaie. Et la plaie, chez certains fans de Johnny, elle a un nom.
Bah déjà, Laetitia, pour commencer, déjà, je peux pas la voir, déjà, pour commencer. Donc déjà, pour moi, elle a plus rien à faire ici.
Pourquoi vous l'aimez pas, Alain?
Ah bah, pour différentes raisons personnelles. En plus, nous, on est là de bonheur et on nous met au placard. Merci Laetitia, merci Macron.
Ah, Macron, il prend une petite balle perdue sur le coup. Il a demandé pour une fois. C'est vrai que les fans étaient un petit peu mis à l'écart. En tout cas, le sujet Laetitia est très, très clivant parce qu'il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. En entendant ça, il y a des pro-Laetitia qui ont rappliqué. Je me suis vite retrouvé un petit peu en zone de guerre. Et je peux vous dire, Israël et Palestine, à côté, c'est Disneyland. Hein.
Non, mais s'il n'y avait pas eu Laetitia, il n'y aurait pas eu ça. Alors, avant de critiquer les
députés,
non, je suis désolée.
Alors, ça, vous êtes plutôt de...
Ah, moi, je suis à Laetitia et j'estime que c'est Laetitia qui a fait ça, qu'elle mérite un hommage.
Il y a deux camps qui s'affrontent, il y a les pros et les anti-Laetitia ici.
Voilà, et nous, on est pour Laetitia, pour Johnny, pour...
Ça me révolte.
Oui, oh la vache. Ah non, mais j'étais à deux doigts de m'en prendre une, hein, je vais vous le dire, voilà, c'est très dangereux. Bon, je savais que je faisais un choix compliqué, hein. Charline m'avait dit fais attention à toi. C'est vrai que j'avais un petit peu sous-estimé le danger. Continuons quand même en essayant de distinguer les pros et les anti-Laetitia.
Les pros et les anti?
Ouais.
Et les cons?
Qui ça, tous?
Tous.
Voilà, comme ça on a réglé le problème. Ouais, on peut continuer un petit peu, voilà. Embauchez-le à l'ONU directement, ce monsieur, on gagnerait du temps dans les négociations, je pense. Alors, on peut passer à autre chose, on peut passer à Johnny et ses fans qui sont venus, mais alors de partout. Hein.
Montpellier.
Vous venez de Montpellier exprès pour l'inauguration?
Ah ben oui.
Nous, on est fans de Johnny pur.
Vous êtes un fondamentaliste de Johnny.
Voilà.
Voilà, alors on avait vraiment la branche radicalisée du johnnisme, hein, comme on l'a dit, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on parle que des musulmans. D'ailleurs, Zemmour veut franciser les prénoms. Alors moi, j'attends qu'il aille expliquer ça aux fans de Johnny. Voilà, je veux juste être là au moment de la discussion. Voilà, quand il finira dans le goudron et les plumes d'aigle qui ornent les blousons en cuir des bikers. Enfin, des bikers, ça aussi c'est américain. Des amateurs de motocyclettes. Voilà, si on veut tout franciser, allons-y. Alors, attention, parce qu'il y a les fans, les fondamentalistes, mais il y a encore les plus purs que les purs.
Non, mais parce que franchement, regardez, ils ont tous un t-shirt de Johnny.
Oui.
Et que vous leur parlez d'une chanson, ils ne sont pas foutus de la donner.
Vous avez combien de tatouages de Johnny?
Je les ai tous. J'ai même le cercueil. Hein.
Vous avez un tatouage du cercueil de Johnny?
Oui, j'ai le cercueil. Moi, ça fait 8 fois que je vais à Saint-Barth.
Ah, vous faites le voyage à Saint-Barth?
Oui, c'est 8 fois. Et je vais y retourner. Là.
Ouais, mais, voilà, mais ça coûte un.
Ah, ben, je m'en fous, c'est pour Johnny.
C'est pour Johnny. C'est pour Johnny. Parce que c'est vrai que Johnny, il est enterré à Saint-Barth. Parce qu'il aimait bien Saint-Barth, Johnny, pour le, bah, tout ce qui est le soleil. Bien sûr. Hein, le soleil. Voilà, Johnny a toujours été comme ça, il a toujours aimé voyager. Hein, Johnny, vous savez, qui j'ai rencontré ce matin à propos de voyage? J'ai rencontré des Suisses. Eh oui, il y a des Suisses fans de Johnny, il aimait bien la Suisse, Johnny.
Ah oui, il a venu très souvent, oui, oui.
Il aimait quoi là-bas, les paysages
Nous?
Oui, vous aimez vous, oui.
Il aimait nous.
Il est venu en Suisse parce qu'il nous aimait beaucoup, puis il a dit que c'est plus calme, parce que quand je sors, je peux sortir sans problème.
Ah voilà.
Voilà, les gens sont tranquilles, ils regardent, ils me disent, ah, c'est peut-être Johnny, mais ils ne laissent passer.
Donc c'est pas pour les impôts?
Non, c'est pas pour ça.
Ça m'étonnerait. Non. Il aimait la Suisse, mais voilà, il aimait la France. Cette France qui lui rend hommage aujourd'hui, cette patrie dont il était le valeureux fils, pardon, merde, j'ai raté mon hommage. Bon, ben, ça me fait un point commun avec la mairie de Paris, tiens.
Guillaume Meurice, merci. Et donc, demain, la suite avec les pro-Laetitia anti-vax contre les anti-Laetitia pro-pass sanitaire. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. On poursuit en compagnie de Corinne Diallo, bien sûr, qui nous accompagne jusqu'à 18h avec Clara.
Et oui, parce que jusqu'à présent, le cinéma américain ne représentait pas tellement les Asiatiques. Alors, à la rigueur, on avait Bruce Lee, né à San Francisco, mais c'est à peu près tout. Et voilà qu'il n'y a pas si longtemps, Disney, dont dépend Marvel, se tourne vers le folklore asiatique avec un film, Shang-Chi, qui cartonne en effet en ce moment au box-office. Alors, dedans, il y a des arts martiaux, il y a des légendes millénaires, et il y a même des dialogues en mandarin. Or, c'est pas évident, le mandarin.
Pourquoi j'apprends le chinois,
hein? Vous apprenez le chinois?
Oui. Bon, mais pourquoi j'apprends
vous
le chinois?
Vous le parlez un peu déjà?
Oui. Oui, je vois bien ce que vous voulez me dire, mais...
Bah, dites-moi...
Bon, bah, je veux dire... Suessi, Haniu, Wu, Nien, Chung, Ven, Shu... Voilà, bon. C'est-à-dire, j'apprends le chinois, je lis des livres en langue mandarine.
Vous m'avez dit quelque chose?
Oui, ben, j'ai
c'était
terminé.
Quoi?
Ben, c'était ça.
Ah, d'accord.
C'était Valérie Giscard d'Estaing en 1989 dans l'émission Radioscopie.
Jacques Chancel.
Exactement. Alors, Rokhaya Diallo, avec son milliard d'habitants, la Chine est un marché juteux. Et donc, Marvel fabrique un film avec des Asiatiques. Est-ce que ça ne fleurerait pas bon un peu l'opportunisme?
Alors, c'est vrai que d'une multinationale telle que Disney, qui a racheté Marvel il y a une quinzaine d'années, on ne peut pas attendre effectivement une opération de charité ou de bienfaisance. Ceci étant dit, la franchise, en tout cas le comics Shang-Chi existe depuis longtemps, et avant Disney, il y a eu ce film qui s'appelle Crazy Rich Asians, qui était sorti il y a quelques années, qui a été un énorme succès aux États-Unis, et depuis quelques années, effectivement, on s'interroge sur la surreprésentation des personnes d'origine asiatique. Le succès de Black Panther a montré qu'un super-héros non blanc, avec un casting majoritairement non blanc, pouvait aussi bien marcher finalement qu'un Captain America. Et Shang-Chi, c'est l'occasion, effectivement, de rendre hommage quand même au cinéma d'arts martiaux chinois. Et ce que je trouve fort, effectivement, c'est que j'ai vu le film, les premières minutes sont entièrement en mandarin. C'est extrêmement rare pour un film américain. Et je trouve ça très très fort. Et puis il y a des stars aussi qui sont connues sur le marché asiatique, comme Tony Leung, comme Michelle Yeoh.
Et c'est Giscard qui fait le doublage, hein, donc on a compris.
Non, mais absolument. Je trouve ça intéressant parce que y a tout un côté où on se dit chic, enfin on les voit, et tout un autre côté où on se dit mais et si la diversité devient un business? Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce qu'on, finalement,
et en même temps, est-ce que c'est pas un moyen comme un autre, alors?
Je pense que si on va attendre des actions qui sont dictées par la morale, c'est pas chez Disney qu'il faut les chercher. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même le choix aussi du personnage principal, Simu Liu, donc l'acteur canadien qui incarne Shang-Chi, a été très critiqué en Chine, en fait, au départ, quand il a été choisi, parce qu'en fait, on disait qu'il était pas beau. Parce qu'il a effectivement des traits qu'on associe, voilà, c'est en fait des traits vraiment caractéristiques, plus caractéristiques, en fait, des personnes chinoises que les acteurs qu'on choisit, ou généralement, on essaie de choisir des traits qui conviennent davantage aux critères de beauté européen. Et moi, je trouve que c'est super qu'on ait choisi cet homme-là, qui a en fait des traits qui sont partagés par énormément de Chinois, et on n'a pas cherché justement à s'accommoder avec des critères de beauté occidentaux. Et ça marche très très bien pour lui, et finalement, il a répondu indirectement à cette critique en disant, on peut aussi avoir mon physique, mon faciès, en étant un super-héros, et c'est le... Enfin, il va faire partie aussi de... On voit que c'est le lancement de ce super-héros qui va intégrer le Marvel Cinematic Universe.
Alors, il y a eu Tigre et Dragon de Ang Lee, il y a eu In the Mood for Love du... Alors, il est hongkongais Wong Kar-wai, et en fait, est-ce que c'est pas la culture plus que la politique qui ouvre les esprits, qui ouvre sur des mondes nouveaux et en fait qui lutte contre le racisme.
Bah, ça joue un rôle fondamental dans les représentations, ça j'en suis certaine. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler aussi de Netflix. Alors, il y a beaucoup de critiques qu'on peut associer à Netflix, mais ce qui est vrai, c'est que dans les séries, on a des personnages qui souffrent de handicap, qui ont des premiers rôles, des personnages d'origine diverse, des personnages qui ne sont pas normés sur le plan du genre, qui ne sont pas normés par rapport à la binarité, qui sont homosexuels, etc. Et je pense que pour les jeunes générations qui grandissent en regardant ces écrans-là, cette pluralité fera partie d'une forme de norme et elle ne sera pas poussée par l'idée de faire des points, de faire de l'argent tout simplement. Et je pense que vraiment la fiction joue un rôle extrêmement important dans les représentations.
Le ministère de la Culture devrait remplacer le ministère de l'Intérieur.
La fiction et l'humour,
mais pas par la même personne.
L'humour aussi est un levier, n'est-ce pas ? Et Constance est là pour nous le prouver tous les mardis.
C'est moi le levier ?
Non, c'est l'humour. Vous actionnez le levier.
D'accord.
Tout expliqué. Hein.
Bonjour les amis. Comment allez-vous ?
Très bien.
Hein, ça va ? Vos vies vous plaisent ? Ils sont gentils avec vous, vos existences ? Je voulais vous dire que je vous retrouve toujours avec autant de plaisir toutes les semaines, même si nous travaillons ensemble depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Je continue à vous regarder et je continue à vous aimer. Voilà. C'est dit, c'est important. C'est important de se dire des petites choses comme ça, car il y va dans le travail comme il y va en amour. Quand on s'est aimé, parfois, sans s'en apercevoir, doucement, on baisse la garde. On pense que tout est acquis, mais c'est une erreur. Car un matin, on passe de l'habitude rassurante à l'indifférence creuse, puis arrive le dégoût et l'infidélité qui nous pend au nez. C'est ce qu'on appelle le risque de la passerelle RTL. Et l'étape suivante, c'est le rendez-vous vite fait entre midi et deux chez Bolloré, pour se sentir vibrer. Pourquoi je vous dis tout ça ? Ben, jugez-le par vous-même, voilà. Ce matin, qu'est-ce qu'on m'annonce ? Journée mondiale des nymphomes. Des nymphomes. Ça vous écorcherait la gueule de prononcer entièrement les mots ? C'est trop compliqué. Articule. C'est trop compliqué quand il y a plus de deux syllabes ou trop fatigant. Nymphomane, répétez après moi, c'est compliqué. Exercice de diction. Monica, la nymphomane, flagelle des nains à la matraque et folâtre en sa manie érotomane. C'est un exercice de diction extrait de la méthode du comédien de Stanislavski. Non, attendez, excusez-moi, autant pour moi. C'est un extrait du livre de Rocco Siffredi. Je suis prêt, je suis ready. Je déteste cette mode du langage raccourci. On peut arrêter de couper les mots. Le respect, c'est pour les fils de pute ou quoi ? Qui prononce petit, pense petit. Tant qu'à arrêter de faire des efforts, allons-y, ne prononçons plus que les premières syllabes des mots. Ah mais ah, les rires rappellent plus, les artéries se fument. Bah maintenant, on comprend rien, c'est ce que je vous dis. Donc, pour relever le niveau, je vais chroniquer les nymphomanes dans la langue de Molière. Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'est plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur. Oh, c'est terrible de mal articuler sur une chronique sur le langage. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur, d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non. La constance n'est bonne que pour les ridicules.
La constance n'est bonne que pour le ridicule. Mais va te faire foutre, Molière, attends. À la limite, la nadège n'est bonne que pour le ridicule, je veux bien, mais pas la constance. Pff, voilà. Moi, je voulais faire une tirade version féministe de Don Juan, et puis ça m'a coupé l'envie. Bah, je vais changer de registre, tiens. Nymphomane, ça pourrait être un personnage de Marvel, une super-héroïne, et je parle pas de drogue, et son super-pouvoir, ce serait de sauver le monde grâce à sa vulve magique. Oh, regardez dans le ciel, une traînée de cyprine pailletée. C'est sûrement Nymphomane qui vient sauver le monde et punir le patriarcat en le giflant avec ses grandes lèvres.
Oui.
André,
ça va pas un peu.
Non, je me suis vu.
Bah oui, vous êtes
je me suis vu.
Maîtrisez-vous.
Oui.
Vous avez l'air un peu gêné.
Non, mais non.
C'est parce que j'ai dit vulve, c'est
non,
ça.
Non, c'est André.
C'est pas non, Constance, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des lymphomes. C'est pas vraiment la journée mondiale des lymphomanes. Et les lymphomes, c'est quand même genre un cancer du sang assez méconnu qui touche beaucoup de gens. Donc ta chronique est vraiment inappropriée, voire gênante.
Oui, bah c'est bon, je savais, hein, j'avais bien lu. Hein. Mais bon, je voulais détourner le sujet pour faire apparaître un lapin là où il y a un vilain crabe. Alors d'accord, ça n'a guéri personne, mais un petit peu de joie pour quelques instants, bah, je me suis dit que c'était déjà ça de pris sur l'angoisse. Voilà, bisous.
Oh Constance, mais vous voyez, magnifique démonstration du levier de l'humour. Transformer le crabe en lapin.
Bah oui, ça
magnifique,
fait
mais bien sûr.
Une orthophoniste, hein, pour
Constance, que vous pourrez avoir en vidéo, partagez, faites tourner, ça fait du bien. Nous sommes en compagnie de Rokhaya Diallo et on va aborder ce dernier thème avec vous. Il faut que je vous dise, les amis, d'abord, samedi, si vous êtes à La Rochelle, il y a Constance qui joue.
Ah.
Allez voir des crabes transformés en lapin.
Ah, oui,
c'est à l'espace en camp.
J'articule.
La Rochelle, samedi. Dans le Nouveau Monde de 2021, tout se sous-traite, même une dissertation. Les universités britanniques sont bien embêtées car certains de leurs étudiants payent de jeunes diplômés kényans pour écrire leur copie à leur place. Un système bien rodé a été mis en place, une sorte d'usine à rédiger des dissertes. Visite d'une usine de plumes au Kenya.
Je trouve que c'est très violent de fouetter les esclaves.
Mais non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des ouvriers qualifiés qui exercent leur travail de leur plein gré. Et avec de la rémunération en plus.
Mais des fois, c'est pour faire joli.
Non. Enfin, oui. Enfin, je ne sais pas, personne ne s'est jamais plaint pour l'instant.
Listou.
Ça doit vouloir dire avant.
Listou.
Oui, listou.
Mission Cléopâtre, un extrait d'un film d'Alain Chabat. Et c'est un article publié par la BBC sur son site internet et traduit par le Courrier International. L'atelier de fabrication de la dissertation dans les pays anglo-saxons et dans le monde entier d'ailleurs se situe au Kenya avec de jeunes diplômés. En voyant ça, on s'est dit l'exploitation du Sud par le Nord se déplace sur le plan intellectuel. On s'est dit que c'était un sujet sur lequel vous pouviez sans doute réagir avec nous.
Mais c'est vrai que c'est... Moi, j'en avais pas entendu parler avant de voir cet article que vous m'avez communiqué. Bah, ce que je trouve un peu triste, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de Kenyans qui sont extrêmement brillants et qui ne sont pas capables de faire reconnaître leur savoir parce que nationalement, bah, on n'a pas les moyens de les recruter et qui vont le donner à des gens qui vont, alors qui seront pas compétents pour les diplômes qu'ils auront, mais qui vont en tirer des revenus autrement plus conséquents, quoi. Donc ça interroge aussi sur bah, comment on arrive à faire fonctionner un monde où finalement il y a des ressources, il y a des gens qui sont compétents mais qui n'arrivent pas à trouver preneur à leurs compétences. Et ça fait un petit peu penser à bah, les call centers où effectivement qui sont sous-traités dans des pays anglophones, donc en Inde pour les pays anglophones, et pour nous c'est plutôt le Maghreb, mm-hmm. où des gens en fait voilà finalement sont payés moins cher pour faire des choses que d'autres pourraient faire avec des voilà.
Ouais. L'article commence avec un exemple concret. Kennedy, 30 ans, a délaissé son métier d'enseignant pour quadrupler son salaire en se spécialisant dans l'écriture académique.
Bah, c'est intéressant aussi parce que, enfin, quand on pense à toute la question, enfin, tout le débat qu'on peut avoir sur l'immigration, on se rend bien compte que, voilà, les gens ne veulent pas les voir venir, mais finalement, leurs compétences sont bienvenues quand elles servent les intérêts de la majorité nationale, quoi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir.
Et il y a quelque chose qui est terrible, c'est que Kennedy, que Charline a cité, se dit moralement compromis, mais il assume un choix très pragmatique. Et je trouve que c'est presque philosophique et en même temps tragique, ce grand écart que ce jeune homme doit faire entre sa morale et sa réalité, en fait.
Exactement, avec la nécessité de faire face à des besoins quotidiens. Et effectivement, dans l'article se termine par une personne qui dit « J'aimerais pas être soignée par une personne pour qui j'ai réalisé la dissertation. » Parce que c'est vrai qu'on se dit que finalement, il y a quand même des gens qui sont censés exercer des métiers pour lesquels ils ont été évalués et en fait, qu'ils sont pas capables de le faire.
Quoi. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand on a fini de piller les matières premières, il faut bien piller un autre truc. Donc les cerveaux, finalement, c'est inépuisable par rapport à la matière première.
Oui, c'est ça, c'est la fuite des cerveaux, mais restez chez vous quand même.
C'est ça. Bon, je vous renvoie à cet article, c'est assez sidérant, effectivement. Il faut le voir pour le croire, presque. Clara Dupont-Mono, vous avez rédigé, vous, en sous-traitant au Kazakhstan, un questionnaire de par J.P. Proust pour notre invité, Rokhaya Diallo.
Je suis moralement compromise. Vous êtes chercheuse, auteure, documentariste, chroniqueuse et d'autres choses. Alors, sur l'échelle de 0 à 10 de la bougeotte professionnelle, 0 étant Michel Drucker, qui fait la même chose depuis 1000 ans, et 10 étant André Manoukian, vous êtes à combien ?
Je dirais 8.
8. Vous êtes née en France de parents sénégalais, alors que Ségolène Royal est née au Sénégal de parents français. Diriez-vous que vous êtes l'exact opposé de Ségolène Royal ?
Pas pour ces raisons-là, mais oui.
À quelle personnalité vous voudriez remettre le Yabon Award d'honneur pour l'ensemble de sa carrière ?
Pascal Pro, parce qu'il a donné la parole à de nombreux lauréats.
Ah. Si on devait faire votre biopic, Rokhaya Diallo, qui pour jouer votre rôle ?
Alors, c'est peut-être abusif, mais j'aimerais bien que ce soit Dana Gurira, celle qui fait la chef de la garde de Black Panther.
Ah, ouais.
Ah, Marvel, donc ouais, super-héroïne et
ouais,
tout.
Ouais, ouais, j'aime bien.
Avec quel...
Il n'y aurait pas de scène d'action, mais...
Ah bon?
Avec quel personnage de fiction vous aimeriez faire un Paris-Washington en avion? Donc, c'est pas la même réponse que la précédente.
Eh bien, ah, c'est une bonne question. Avec ah là là, c'est quel personnage de fiction? Il y en a trop. Un personnage de fiction avec qui j'aimerais bien faire un Paris Washington.
Et c'est au moins 8 heures hein, le vol.
Ouais. Donc, ouais. Donc faut avoir quand même de la conversation.
Ouais, un petit peu.
Je dirais, allez, on va rester dans l'univers des super héros. Je vais dire avec Black Widow, la veuve noire de Marvel aussi.
À quel politique français vous aimeriez donner des cours d'anglais?
Ça fait beaucoup de travail quand même. Bah, peut-être à Jean-Pierre Raffarin.
Ah ouais.
Et enfin une dernière.
Win the yes.
Quel éditorialiste aimeriez-vous empaqueter façon Christo?
On peut faire un paquet collectif ou
Oui.
C'est news.
Voilà, à l'heure des pros.
Rokhaya Diallo, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que si vous pouvez voir sur France 3 Paris Île-de-France prochainement le 11 octobre à 22h50 votre documentaire La Parisienne démystifiée. Et puis on vous suit toujours, bien sûr, nous lisons vos éditos dans le Washington Post. Bien sûr, on peut vous suivre dans tous les débats, surtout cette année, j'ai l'impression. Oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci les amis d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous dis à demain mercredi, jour de Parjupiclasse. Dans une classe restée ouverte, car le protocole sanitaire de Jean-Mi, c'est 3000 classes qui ont déjà fermé depuis la rentrée.
Puis-je vous demander à quoi vous attribuez cette réussite extraordinaire, quasi fabuleuse?
Protocole sanitaire de merde!